Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. La circulation en France sera facilitée à partir de mardi prochain, mais la fête sera moins tardive au Nouvel An. Couvre-feu à partir de 20h. Les lieux culturels restent fermés. Nous faisons le point sur ces nouvelles mesures dans un instant. Et ce, alors que les élus de montagne crient toujours leur colère face à la fermeture des remontées mécaniques pour le ski. Ils s'entretiendront ce matin avec le Premier ministre. Dans cette édition encore, tour d'horizon des mesures choisies par le gouvernement pour alléger le quotidien des directeurs d'école. Plus d'argent, plus de temps pour certains, mais pas de soutien en secrétariat, voilà ce que disent les syndicats. Et puis la vaccination aux États-Unis, elle est sur le point de débuter, en tout cas dans quelques heures, l'agence du médicament, l'agence américaine, devrait donner son accord pour le vaccin Pfizer. La France n'atteindra pas le seuil de 5000 cas par jour au 15 décembre. 5000 nouveaux cas de Covid-19, c'est inatteignable dans 4 jours. Logique d'ailleurs au vu des derniers chiffres, encore 14 000 cas diagnostiqués rien qu'hier. Et c'est pour cela que le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir un déconfinement plus strict que prévu l'aura du lieu.
Oui, à commencer par les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, tous les établissements recevant du public censés rouvrir le 15 décembre, ils resteront fermés 3 semaines de plus. Bars et restaurants restent également fermés. La jauge des lieux de culte ne sera pas revue à la hausse. Et pour le couvre-feu, en métropole uniquement, il est avancé 1 heure plus tôt, à 20h. À partir de mardi prochain, ce sera certes la fin des attestations en journée et la possibilité de se déplacer sur tout le territoire, mais il sera interdit de circuler entre 20h et 6h du matin. Les dérogations seront strictes, trajet entre domicile et travail, raison de santé, motif familial impérieux ou les besoins des animaux de compagnie. En revanche, la pratique sportive ou la balade après 20h, ce ne sera plus possible. Et puis, le ministre de l'Intérieur insiste, même si l'on se trouve dans un établissement qui ferme à 20h, on doit se débrouiller pour être quand même chez soi à 20h. Et puis, pour les fêtes, une tolérance pour Noël, mais pas pour le Nouvel An. Concrètement, il n'y aura pas de couvre-feu lors de la nuit du 24 au 25 décembre, avec une recommandation de 6 adultes à table maximum. Recommandation aussi de limiter autant que possible les interactions 5 jours avant Noël, par exemple si l'on doit côtoyer une personne fragile lors du réveillon. En revanche, pour le Nouvel An, ce sera couvre-feu à 20h pour tout le monde. Gérald Darmanin affirme que les forces de l'ordre seront intransigeantes, notamment avec les fêtes sauvages.
Merci Laura Dulieu. J'ai déjà de premières réactions de colère chez les professionnels de la culture, notamment du spectacle. Il regrette ce changement de dernière minute après tant d'argent investi pour la promotion de la reprise qui avait été prévue normalement mardi prochain. Reprise qui se fera donc le 7 janvier au mieux. Autre colère qui dure depuis la mi-novembre celle-ci. Les représentants du monde de la montagne ne cachent plus leur exaspération. Ils ont de nouveau rendez-vous avec le Premier ministre ce matin à 10h pour une visioconférence. Jean Castex promet d'écouter leurs doléances alors que les remontées mécaniques des stations de ski sont toujours fermées. Cela va durer jusqu'à la fin des vacances de Noël. Plusieurs élus dénoncent une gestion très parisienne de ce dossier. Rosalie Lafarge.
De décision en décision, d'annonce en annonce, de nombreux élus en station s'interrogent. A-t-on vraiment, au sein de l'exécutif, conscience de ce qu'est la montagne? André Périlla en doute, le maire du Grand Bornand et vice-président de l'association des maires de stations de montagne.
On peut s'attendre à une pratique soutenue du ski de randonnée ou de toute autre donc, activité, notamment par les habitants du territoire, y compris sur nos domaines skiables. Comment vont s'organiser les secours et à qui incombera la responsabilité de la sécurité sur les domaines skiables pendant leur fermeture et en l'absence des services de sécurité des pistes? C'est une vraie question. C'est par exemple au travers de questions comme ça que l'on s'aperçoit qu'il y a peu de connaissances de la problématique de la montagne.
Son collègue de Châtel, Nicolas Rubin, président de l'Association des maires de Haute-Savoie, regrette le manque, voire l'absence de concertation.
Tout relève aussi de l'expérience des conseillers de nos dirigeants qui devraient plutôt s'inspirer à venir puiser leurs connaissances là où elles sont, c'est-à-dire sur les territoires. J'ai l'impression qu'on ne maîtrise pas forcément tout ce qui se passe dans notre environnement. Donc c'est vrai qu'on est peut-être les mieux à même d'apporter des informations au gouvernement pour une bonne aide à la décision.
Comme ses élus, Pascal Boyer souhaite de la cohérence et de la visibilité, mais la députée En Marche des Hautes-Alpes, également secrétaire générale de l'Association nationale des élus de montagne, comprend l'inconfort de l'exécutif.
Bien évidemment que Paris a compris que la montagne était dans une situation extrêmement grave,
Mais le problème numéro un, c'est effectivement cette crise sanitaire à gérer.
Si les élus des stations n'ont pour la plupart plus l'espoir d'ouvrir pour les fêtes, ils espèrent et demandent une ouverture des remontées mécaniques le plus vite possible en janvier.
Rosalie Lafarge. La planète chauffe un peu moins avec la pandémie de Covid-19. L'organisation Global Carbon Project décèle une baisse de 7% des émissions de CO2 cette année. Baisse qui ne suffira pas toutefois à mettre les États sur la bonne trajectoire pour respecter l'accord de Paris sur le climat, accord signé il y a tout juste 5 ans. Un an après le suicide de la directrice d'école maternelle Christine Renon à Pantin, le ministère de l'Éducation nationale propose. Il avance des mesures destinées à alléger la charge de travail des directeurs, Sarah Ders.
600 emplois seront mobilisés à la rentrée prochaine, promet le ministère, des postes pour seconder les directeurs d'école dans les classes et surtout pour leur permettre de consacrer du temps qu'aujourd'hui ils n'ont pas aux tâches administratives. Par exemple, les directeurs de petites écoles de 1 à 3 classes bénéficieront de 2 jours de décharge supplémentaire par an. Autre engagement du ministère, la reconduction de la prime de 450 €. Une première avancée pour le secrétaire général du syndicat enseignant UNSA, Stéphane Crochet.
C'est une avancée pour un directeur sur 3. S'agissant des décharges, pour la rémunération, ce sera pour tout le monde. Il reste un autre sujet éternellement en suspens qui est le soutien en secrétariat. Et il n'y a pas eu d'avancée sur la direction d'école depuis 2017. Depuis, les missions des directeurs d'école n'ont cessé de s'amplifier, de se complexifier et la crise est venue rajouter encore de la difficulté. Donc aujourd'hui, il y a là une profession épuisée qui attend vraiment qu'on lui dise qu'on a bien perçu le problème et qu'on va le prendre à bras le corps.
Au-delà de ces annonces, les syndicats enseignants attendent surtout la suite, une loi de programmation ambitieuse à la hauteur des difficultés rencontrées par la profession.
Fin du procès hier soir de Nicolas Sarkozy, fin de 3 semaines d'audience qui ont jugé l'ancien président de la République, l'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Le parquet avait requis 4 ans de prison, dont 2 fermes. Hier, le tribunal a mis sa décision en délibéré pour le 1er mars prochain. Jugement qui sera très attendu, nous explique Pierre Rancé. Il est l'auteur de l'ouvrage « Juges et politiques, les ennemis jurés » publié chez Robert Laffont.
L'enjeu pour ce procès Bismuth, c'est d'abord l'avenir de Nicolas Sarkozy, puisque c'est le premier procès de une voire 2 autres affaires qui vont suivre. Donc s'il est relaxé ou s'il est condamné, ça ne sera pas la même chose pour le reste de ses affaires judiciaires. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est sur l'avenir de la justice financière qui a été le pivot de cette accusation contre Nicolas Sarkozy et notamment la justice spéciale qui est le parquet national financier. Il représente l'accusation, il a été attaqué souvent par la défense. Le troisième enjeu, on l'a entendu hier, c'est tout de même les rapports entre les défenseurs, les avocats et les magistrats, avec un climat de suspicion désormais qui est terrible entre les deux. Et enfin, il y a même un quatrième enjeu, c'est celui du tribunal, qui se retrouve à juger cette affaire, qui est compliquée. La présidente du tribunal a été désignée, elle est venue à Paris, elle était magistrate en province pour ce genre de dossier, ces dossiers financiers. On peut même dire qu'elle joue, entre guillemets, sa carrière avec le jugement de l'affaire Bismuth-Sarkozy.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg pour France Culture. Le plan de relance européen, il est sur les rails, ça y est. Les dirigeants ont donné leur accord hier soir pour cette aide de 750 milliards d'euros. Ils se sont entendus également pour sanctionner la Turquie dans le cadre du différend sur la prospection énergétique en Méditerranée. Terminons ce journal par ce feu vert donné hier au régulateur américain du médicament pour pouvoir autoriser l'utilisation du vaccin anti-Covid de Pfizer et BioNTech. Un feu vert de la part d'un comité d'experts indépendants, Grégory Phillips.
Toute la journée, pendant près de 9 heures, ces experts indépendants ont confronté leur point de vue. Les débats étaient retransmis en direct sur le site internet de la FDA. Exercice de transparence inédit, suivi en temps réel par des milliers d'Américains. Les experts devaient répondre à une question. Sur la base des informations scientifiques dont vous disposez, pensez-vous que les bénéfices du vaccin mis au point par Pfizer-BioNTech sont plus importants que les risques pour des individus âgés de 16 ans et plus? Les experts échangent sur l'efficacité réelle du vaccin contre les formes graves de la maladie, sur ses effets indésirables, sur les risques d'allergie aussi. Mais à la fin de la journée, le vote est quasi unanime, 17 voix pour, 4 voix contre, une abstention. Le comité recommande à la FDA d'autoriser ce vaccin. Ce sera fait demain ou après-demain. Alors, près de 3 millions de doses quitteront l'usine Pfizer de Kalamazoo dans le Michigan. Avec l'aide de l'armée, le vaccin sera envoyé dans chacun des 50 États américains et ce sont les gouverneurs qui définiront les cibles prioritaires. Personnel soignant, résidents des maisons de retraite, travailleurs essentiels. Les premières vaccinations pourraient avoir lieu dès lundi et 20 millions d'Américains seront vaccinés d'ici la fin de l'année.
Revenons en France métropolitaine pour quelques mots de météo. De la pluie aujourd'hui pour tout le monde, pas de jaloux, et des températures plus douces sur l'ouest avec 12 à 14 degrés, 1 à 8 degrés sur la moitié est du pays. C'est l'heure du...